pouvez prendre place et je vous invite à prendre vos Bibles et les ouvrir dans le livre des Juges. Et nous entendrons la lecture de Juges 2, 5 à 3, 6.
Josué renvoya le peuple et les Israélites se rendirent chacun dans le territoire qu'il avait reçu en héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qui lui avait été attribué, à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres, et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et irritèrent ainsi l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les dépouillèrent. Il les vendit aux ennemis qui les environnaient, de sorte qu'ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils se trouvèrent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel fit surgir des juges, afin qu'il les délivre de ceux qui les dépouillaient. Mais ils n'écoutèrent même pas leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, en se prosternant devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avaient suivie leurs ancêtres, et ils n'obéirent pas, comme eux, aux commandements de l'Éternel. Lorsque l'Éternel faisait surgir pour eux des juges, il était avec le juge et les délivrait de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. En effet, il avait pitié des gémissements qu'ils poussaient à cause de leurs oppresseurs et de leurs persécuteurs. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leurs ancêtres en suivant d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persistaient dans les mêmes agissements et la même conduite, le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, « Puisque les membres de cette nation ont violé mon alliance, celle que j'avais prescrite à leurs ancêtres, et puisqu'ils ne m'ont pas obéi, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué n'avait pas encore pu chasser à sa mort. En effet, à travers elles, je mettrai les Israélites à l'épreuve pour savoir s'ils imiteront l'exemple de leurs ancêtres et veilleront ou non à suivre la voie de l'Éternel. Ainsi l'Éternel laissa tranquilles les nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué. Il ne s'empressa pas de les chasser. Voici les nations que l'Éternel laissa tranquilles pour mettre à travers elles les Israélites à l'épreuve. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de conquête de Canaan. Ils voulaient seulement que les générations des Israélites, ceux qui ne l'avaient pas encore connu auparavant, connaissent et apprennent la guerre. Ces nations étaient les suivantes. Les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens qui habitent la région montagneuse du Liban, depuis le mont Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath, servirent à mettre les Israéliens à l'épreuve afin que l'Éternel sache qu'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent leurs propres filles à leurs fils, et ils servirent leur Dieu. Le deuxième texte, dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre propre nature qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra.
Sans l'action du Saint-Esprit, la Bible reste obscure. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit agisse afin que ce livre des juges ne soit plus obscur pour nos cœurs. C'est vraiment ma prière, que l'Esprit de Dieu agisse dans nos cœurs. Et le mois passé, nous avons commencé en fait cette série sur le livre des juges un livre qui s'adresse au peuple de Dieu appelé à vivre dans la sainteté. Ce livre, comme nous l'avons vu, contient deux introductions, et comme il contient d'ailleurs deux appendices. C'est vraiment dans la notion en fait de la pensée hébraïque qui aime dire les choses deux fois, un peu différemment, mais pour qu'on comprenne mieux de quoi il est question. C'est dans cette même idée. La première introduction nous a donné un aperçu de la situation du temps des juges. Nous avons pu comprendre que la conquête de Canaan était en fait un jugement sur les peuples qui avaient rejeté Dieu. Ce n'était pas simplement le peuple juif qui voulait aller dans ce pays. Non, c'était un jugement de Dieu sur ces peuples. Et tous ceux qui rejettent Dieu sont sous ce jugement. La première introduction nous a montré l'étendue du mal en Israël. Toutes les tribus étaient touchées. On a fait un peu de géographie, vous vous souvenez peut-être la dernière fois avec toutes ces tribus. Toutes les tribus étaient touchées, et la première introduction, c'est comme si on regardait dans le rétroviseur pour avoir un coup d'œil en arrière, pour savoir où on en est maintenant. La deuxième introduction que nous allons aborder aujourd'hui nous montrera non plus seulement l'étendue, mais la profondeur du mal. Toutes les générations sont touchées. Maintenant, on regarde plus en arrière, c'est comme une longue vue pour regarder en avant. Cette deuxième introduction va donner les clés de la vue d'ensemble du livre des juges pour mieux comprendre le développement qui va suivre. C'est un peu comme si vous allez visiter un parc historique, une carte qui vous permet de faire le lien entre les différents monuments que vous allez visiter. C'est ça en fait, cette introduction que nous allons voir aujourd'hui, qui ressemble un peu au psaume 106 qu'on a lu tout à l'heure, qui fait aussi une vue d'ensemble. Nous allons donc, dans cette deuxième introduction, parcourir les grands thèmes qui se trouvent dans le livre des juges. Le premier point apportera le changement de génération. Puis nous parlerons, en deuxième point, de la spirale du livre des juges, qui nous est présentée du verset 11 au verset 21. Et nous terminerons par parler de l'épreuve mise en place par l'Éternel. Donc commençons par le changement de génération. Alors quand on commence ce texte, alors je vous invite à garder vos bibles ouvertes dans le livre des juges au chapitre 2, j'y ferai régulièrement mention, mais lorsqu'on regarde le début du texte, eh bien tout commence bien, c'est positif, tout va pour le mieux, le peuple prend possession, il sert l'Éternel et il a vu toutes les grandes œuvres que l'Éternel a accomplies pour Israël. Cette génération, en fait, c'était des enfants lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, pour les plus âgés. Et il y a comme une solidarité générationnelle, comme on le voit parfois dans certaines églises où les premiers qui étaient là au début de l'église ont cette solidarité. Ils se souviennent de la première fois qu'ils ont eu un local pour annoncer la parole de Dieu. Ils se souviennent de la première personne qui se convertit, enfin, etc. Ils se souviennent de toutes ces choses et vivent avec ce feu, quelque part, de ce que Dieu a fait dans leur vie. Alors, tant que Josué et les anciens de son époque étaient là, le peuple servait l'Éternel. Tant que Josué et les anciens de son époque étaient là, le peuple servait l'Éternel. Et voici qu'une autre génération arrive aux commandes du peuple. Et là, le verset 10 est absolument terrifiant. Regardez. Il est dit qu'il s'éleva une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Ne pas connaître ici ne signifie pas ne pas avoir d'information. Ne pas connaître, ça signifie pas ne pas avoir d'information sur l'Exode, la mer Rouge, passage du Jourdain, etc., les murailles de Jéricho. Pour donner un exemple aussi qui va étayer ce que je vous dis, il est dit dans 1 Samuel 2:12 que les fils d'Élie, donc c'est un sacrificateur qui avait recueilli Samuel, peut-être ça vous dit quelque chose, les fils d'Élie étaient des vauriens et ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et pourtant, ils étaient sacrificateurs dans le tabernacle. C'était à la fin des juges. Donc, ne pas connaître, c'est ne pas mettre d'importance sur la personne et l'œuvre de Dieu. C'est oublier ce qu'il est et ce qu'il a fait. C'est ça, ne pas connaître. C'est pas ne pas avoir les informations. Ne pas connaître, c'est ne pas mettre d'importance sur la personne et l'œuvre de Dieu. C'est oublier ce qu'il a fait. En fait, ils ont oublié la signification de la sortie d'Égypte, qui est la délivrance de l'esclavage. On pourrait dire avec les termes d'aujourd'hui, ils ont oublié l'évangile. Comme Pierre le dit d'ailleurs dans 2 Pierre 1:9, ils ont oublié l'évangile. Et la deuxième étape après l'oubli, la libération de l'esclavage, c'est de se détourner de Dieu pour servir des idoles. Quand on oublie que c'est le seul vrai Dieu, que c'est le seul Dieu qui est véritable, eh bien, on va vers d'autres dieux. Verset 12. Ils abandonnèrent l'Éternel. Verset 13. Ils abandonnèrent l'Éternel. C'est un acte volontaire. Et nous voyons au verset 11 que faire le mal, selon Dieu, si je vous dis faire le mal, ça veut dire quoi pour vous? On aura toutes sortes d'idées. Selon Dieu, faire le mal, c'est rendre un culte aux idoles. Ça, c'est faire le mal. Rendre un culte aux idoles. Et rendre un culte aux idoles, c'est pratiquer la prostitution spirituelle. Et cette notion de prostitution spirituelle est utilisée ici pour plusieurs raisons dans ce contexte. Et j'aimerais vous parler premièrement d'une raison secondaire, et puis ensuite on parlera de la raison primaire. Mais déjà, une raison secondaire, c'était toute la question de la prostitution sacrée dans le pays de Canaan. En fait, lorsque l'on parle des Baals, vous avez déjà vu ça dans la Bible, les Baals, les idoles, les Baals, en fait, on parle des dieux masculins. C'est ça, en fait, pour dans le pays de Canaan. Et lorsque l'on parle des Astartés, ou d'Astarté, on parle en fait des dieux féminins. OK? Et les Cananéens pensaient que la fertilité de leur sol, la pluie et de tout ce dont la nature a besoin pour produire du fruit, était la conséquence d'un acte sexuel entre Baal et Astarté. C'est ça qu'ils croyaient. Donc ils pensaient qu'il faut qu'ils aient cette relation pour qu'il y ait fécondité dans leur vie. L'acte sexuel divin, selon eux, procurait la fécondité sur la terre. Alors afin de stimuler leur Dieu à passer à l'acte, afin quelque part de les conduire à cela, ou peut-être même à leur apprendre à le faire, eh bien ils pratiquaient justement ces notions d'un rituel qui constituèrent des relations sexuelles avec des prostituées sacrées. Ils le faisaient pour inciter le Dieu à avoir cette relation, pour avoir la fertilité. Et lorsqu'un homme ou une femme mariée allait avoir des relations sexuelles avec des prostituées du temple, eh bien, ce n'était pas compté comme adultère. La religion couvrait l'infidélité. Et ça allait si loin qu'il disait que s'il y avait de la mauvaise récolte, c'est parce qu'il y en a quelques-uns qui n'avaient pas fait ce rituel, évidemment. Et quand Dieu dit que le peuple s'est prostitué à d'autres dieux, ces pratiques, c'est vrai, sont certainement visées. Mais en premier lieu, j'ai dit ça c'était secondaire, c'est vrai, mais en premier lieu, il s'agit en fait de l'alliance entre Dieu et son peuple qui est brisée. Dieu aime son peuple de façon exclusive comme un mari. Et si son peuple va vers un autre mari, et entre parenthèses, Baal veut aussi dire mari, son peuple commet un adultère. Et s'il le fait en échange d'un service ou comme une offrande, c'est de la prostitution. Et ces dieux demanderont de plus en plus. Et comme je l'ai dit avant, ces esclaves de ces faux dieux diront que si la récolte est mauvaise, c'est à cause de ceux qui n'ont pas pratiqué ces rites de fertilité. Vous savez, les faux dieux n'ont jamais compassion. Les faux dieux n'ont jamais compassion. Ils peuvent rendre esclaves, mais ne peuvent pas montrer de grâce et pardonner. Ils peuvent rendre esclaves, mais ne peuvent pas montrer de grâce et pardonner. On leur prête beaucoup de promesses, mais en fait, ils ne peuvent rien donner du tout. Alors, c'est vrai que la deuxième génération n'a pas forcément totalement rejeté Dieu. Mais elle a aussi adopté les dieux des peuples locaux avec le rite sensuel attirant. Les Israélites combinaient tout, en fait. Ils combinaient. Ce n'était plus le seul dieu vivant qui était souverain. C'était en fait le peuple qui souverainement choisissait les dieux qu'il voulait adorer selon ses désirs et ses besoins. Vous voyez le transfert de souveraineté ? C'est plus Dieu qui est souverain, c'est l'adorateur qui souverainement choisit ses dieux. Et en ne donnant pas l'exclusivité à l'Éternel, petit à petit, l'Éternel n'est plus présent. Et là, c'est vrai, déjà une ou deux questions qu'on peut se poser à nous-mêmes maintenant. Est-ce que nous donnons l'exclusivité de Christ dans toutes les parties de notre vie? Sommes-nous prêts à faire ce que Dieu veut dans tous les domaines de notre vie? Sommes-nous prêts à accepter ce que Dieu va envoyer dans tous les domaines de notre vie? Et si ce n'est pas le cas dans un domaine, c'est que nous l'avons peut-être déjà ouvert ou donné à un Dieu alternatif. En fait, la seconde génération dans Juges n'était plus que le peuple de Dieu de nom. Hein? C'est un peu comme, vous connaissez Roger Federer, je pense, beaucoup connaissent cette personne, c'est un joueur de tennis. Eh bien, les enfants de Federer n'ont que le nom du joueur de tennis. Ils ne sont pas eux-mêmes des tennismen, à moins qu'ils prennent la raquette et ils commencent à jouer. Eh bien, le passage de chrétien convaincu à chrétien nominal d'une génération à l'autre est terrible et arrive souvent, malheureusement. Vous savez, la transmission de la foi n'est pas automatique. On ne peut pas transformer la foi comme le contenu d'un compte en banque. Il faut en fait une conversion qui a deux facettes, la repentance et la foi. Voici ce que dit Tim Keller, je vous le cite. « Je pense que l'un des problèmes majeurs, donc dans ce passage d'une génération de foi à une génération nominale, donc je pense que l'un des problèmes majeurs est que les parents chrétiens considèrent leurs enfants comme étant chrétiens beaucoup trop rapidement. C'est la peur de les voir en enfer, la honte devant les autres chrétiens, les conventions sociales, etc., qui sont de mauvaises raisons qui poussent les parents à dire que leurs enfants sont chrétiens avant qu'ils ne le soient. » Fin de citation. Vous savez, vos enfants ne sont pas chrétiens lorsqu'ils ont des convictions, que lorsqu'ils ont des convictions bibliques, lorsqu'ils font des choix conséquents en vue, en lien avec leur foi, lorsqu'ils manifestent un amour pour Christ en dehors de vos traces et qui restent fidèles à Christ même si leurs intérêts sont touchés. Vos enfants ne sont pas chrétiens parce qu'ils se conduisent bien ou parce qu'ils connaissent des versets bibliques par cœur. Ou même parce qu'ils partagent la plupart de vos avis sur beaucoup de sujets. Ne considérez pas vos enfants comme chrétiens s'ils ne le sont pas. Parce que sinon, vous allez créer des chrétiens nominaux. Comme la deuxième génération en Canaan. Ils s'appelaient Israélites, Hébreux, peuple de Yahvé, mais ils n'en avaient que le nom, ce n'était pas une réalité. Pour moi, et c'est vrai, selon la confession de foi de notre Église, le signe qui manifeste une différence entre un chrétien et chrétien nominal, c'est le baptême. Alors je parle, bien entendu, du credo-baptisme, le baptême des personnes qui confessent la foi chrétienne. Ce n'est pas un signe infaillible, mais c'est le signe qui a été donné par Dieu dans le Nouveau Testament pour manifester l'appartenance à l'Église de Jésus-Christ. Car il est écrit, par exemple, dans Marc 16:16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ou encore dans Acte 2:38, lorsque Pierre répond à la foule « Mais que doit-on faire quand ils comprennent leur péché ?» Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La deuxième génération dans Juges ne connaissait pas Dieu. Où est le problème? Est-ce uniquement les parents qui n'ont pas su transmettre? Ou est-ce les jeunes qui n'ont rien voulu entendre? En fait, le texte ne développe pas le sujet ici. Mais indique au verset 17 ceci, pouvez regarder au verset 17. Qu'ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avait suivie leur père, qui obéissait au commandement de l'Éternel. Ils agirent tout autrement. Et même si les causes ne sont pas développées ici, il s'agit clairement de rébellion, de révolte contre les commandements de Dieu. Et la spirale infernale dans laquelle Israël s'est jeté est un constant retour vers la rébellion. Et c'est la suite du texte qui va nous expliquer ça, et c'est notre deuxième point, qui parle de cette spirale dans laquelle le peuple est entré et qui nous fait une vue d'ensemble du livre des juges. Certains parlent de cycle dans le livre des juges. Et c'est vrai que nous avons un cycle répété. Et les versets que nous allons aborder maintenant le présentent. Mais si je l'ai appelé une spirale, c'est parce qu'en fait, après chaque cycle, le peuple s'enfonce toujours plus dans le péché. Donc ce n'est pas quelque chose qui reste au même niveau, c'est quelque chose qui s'enfonce toujours plus. Voilà pourquoi je l'ai appelé la spirale. Cela commence toujours par la rébellion, pour terminer ensuite dans une rébellion plus profonde. Et le message du livre des juges, s'il n'était pas éclairé par l'évangile, serait un message totalement pessimiste. C'est la spirale du péché qui mène au pire. Ça, c'est le livre des juges. Le message du livre des juges, s'il n'était pas éclairé par l'évangile, serait un message totalement pessimiste. C'est la spirale du péché qui mène au pire. Mais heureusement, comme nous le verrons, l'évangile permet de voir ce qui était annoncé dans ce livre et que Jésus a accompli. C'est mon but que vous ressortiez avec ces éléments-là avec vous pour relire ce livre d'une manière peut-être différente par la suite. Donc, le cycle qui forme la spirale est formé de 5 phases. On peut discuter du nombre de phases. Mais si j'en ai pris 5, c'est qu'on a 5 doigts. C'est plus facile comme ça. 5 phases. Et ils commencent tous par la même lettre. De nouveau des R. Bon, ça me rappelle autre chose, mais là, c'est les 5 phases de la spirale du livre des juges commencent par des R. C'est la rébellion, suivie de la ruine, suivie de la repentance, suivie de la rédemption, suivie du repos, suivie de la rébellion. Enfin, après, vous pouvez recommencer. OK ? Ça, c'est ces 5 phases et on va les voir ensemble. On les voit dans ce texte. La première, donc, dans les versets 10 à 13, versets 17 et 19, sont éloquents. Le peuple désobéit au commandement de Dieu et va vers d'autres dieux. C'est la prostitution spirituelle. On en a déjà parlé tout à l'heure, je ne vais pas le redévelopper maintenant. Mais c'est ce que Adam a fait dès le début, lorsqu'il a choisi de ne pas obéir à son créateur, et que nous continuons à faire, ayant hérité de sa nature maintenant. C'est l'état dans lequel nous nous trouvons en tant que pécheurs. Cet état de rébellion face à Dieu. Et l'évangile, dans cette étape de rébellion, eh bien, c'est qu'il est important de prendre conscience de son état de pécheur. Personne ne va chez le médecin demander des soins s'il n'est ni malade ou s'il ne suspecte pas qu'il pourrait avoir une maladie. Mais non, il ne va pas y aller. Personne ne va vers le Sauveur s'il n'est pas conscient de son péché. Être sauvé de quoi? Alors, le premier pas vers le salut, ça fait partie de l'évangile, c'est de reconnaître son péché, sa rébellion contre Dieu. Le premier pas vers le salut, c'est de reconnaître son péché, sa rébellion contre le salut. Et quelle est la conséquence du péché? Eh bien, c'est la deuxième étape de ce cycle, c'est la ruine, la colère de Dieu. Les versets 14, 15, 20, 21. La colère de Dieu. Eh bien, nous en avons parlé cette semaine dans l'étude biblique, puisque nous étudions l'Épître aux Romains, et nous étions dans Romains 1, les versets 18 à 36, donc vous pouvez relire ces textes, qui parlent de la colère de Dieu. Et nous nous étions posé une question, et je vous invite à vous poser cette question. Êtes-vous sous la colère de Dieu? Êtes-vous sous la colère de Dieu? Et je vais y répondre, selon ce que la Bible dit. Oui, si vous n'êtes pas justifié par la foi. C'est ça la réponse. Êtes-vous sous la colère de Dieu? Oui, si vous n'êtes pas justifié par la foi. Et dans le livre des juges, l'abandon de l'Éternel appelle sa colère. Or, ce n'est pas une colère injuste, une colère subite ou pleine de haine. Non, c'est une colère d'un jugement prévu dans l'alliance pour celui qui ne respecte pas les clauses. Vous pouvez relire, hein, il y a plusieurs textes, mais je vous en cite un dans Deutéronome 28,15. Il est dit ceci: « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. » Suit une liste de malédictions sur 52 versets. Dans Deutéronome 28. La ruine n'est pas injuste. Elle est totalement méritée. Et même, Dieu n'a pas déversé toute la malédiction d'un coup. Et cette colère, ce jugement de Dieu qui est juste, qui est mérité, n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Certains diraient, mais ça c'est l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau. C'est vrai que nous sommes dans le Nouveau, Christ est venu. Voici ce qu'il est écrit dans Éphésiens 5, 6, c'est le Nouveau Testament. « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de sa rébellion. » Ou encore dans Colossiens 3, les versets 5 et 6, qui dit ceci: « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. » Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. On dit « Ouais, mais ça change, les années, nos grands-parents, c'était comme ça. » Dieu ne change pas. Mais alors, comment voir l'évangile dans la ruine, dans la colère de Dieu? Eh bien, je dirais deux choses. D'une part, Dieu est juste. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il tient parole. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Ça ne nous rassure pas encore beaucoup, mais c'est quelque chose d'important. Et d'autre part, et là, je trouve que c'est juste merveilleux. Le Nouveau Testament nous apprend que si nous aussi, nous méritons la ruine, la malédiction à cause de notre péché, elle peut être détournée sur Christ. C'est ça le message de l'Évangile. C'est pas que la colère de Dieu n'existe plus. C'est qu'elle peut être détournée sur Christ. Il est dit dans 1 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice en Dieu. » Ça a été détourné sur Christ. Hein, Galates 3, 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » Ou encore dans 1 Thessaloniciens 1, 10, où c'est dit très clairement « Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » C'est ça le message du Nouveau Testament. C'est pas dire Dieu n'est plus en colère, Dieu ne juge plus, c'est pas vrai. Il n'a pas changé, il est juste. Mais nous avons une nouvelle extraordinaire à partager autour de nous, c'est qu'il est possible de détourner cette colère afin qu'elle ne tombe pas sur nous. Jean 3, que beaucoup de monde aime citer pour l'amour de Dieu décrit au verset 16, nous indique au verset 36 comment détourner la colère de Dieu. Mais termine aussi par un avertissement solennel. Et j'aimerais vous le lire. Jean 3, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Ah voilà, la colère est détournée. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Et voilà l'avertissement solennel. « Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ça, c'est Jean 3, un chapitre de l'amour de Dieu, si vous voulez, qui termine par ce chemin pour que la colère soit détournée. Nous pouvons la saisir par la foi, celui qui croit. Pourquoi tu ne croirais pas? Mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, que faire pour que Dieu vienne à notre secours, pour qu'il ait pitié de nous et agisse plein de grâce, malgré le fait que nous ne le méritons pas? Eh bien, par la repentance. Hein? Que faire pour que Dieu vienne à notre secours? Eh bien, c'est par la repentance. Et c'est la prochaine étape du cycle, hein? Souvenez, rébellion, ruine, repentance. Il est dit au verset 15, dans Juges 2, que le peuple était dans une grande détresse. Au verset 18, même qu'il gémissait. Et nous verrons dans cette phase de la spirale qu'il y a comme un sursaut vers le haut. On est toujours en train de descendre, là, il y a comme un sursaut vers le haut. Et dans chapitre 3, verset 9, verset 3, 15, 4, 3, etc., on le verra par la suite dans les juges, il est dit, les Israélites crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les entendit, etc. Ils crièrent à l'Éternel. Ah bon, c'est vrai que dans le livre des juges, nous voyons que la détresse et le gémissement n'est pas forcément synonyme de repentance. C'est vrai. Mais comme lorsque le peuple était esclave en Égypte, c'est d'ailleurs les deux seules fois que le terme gémissement est utilisé à part ici dans Juges, c'est quand le peuple était en Égypte, et Dieu a entendu ces gémissements et est intervenu. En fait, c'est la grâce de Dieu. C'est entièrement la grâce de Dieu. Dieu en a eu pitié à cause de ses promesses, il intervient en faveur de son peuple. C'est la grâce. Et le lien avec l'évangile ici est limpide. Dans cette phase, la repentance, c'est le chemin qui conduit au salut. La repentance, c'est le chemin qui conduit au salut. C'est un acte dans lequel l'homme est pleinement engagé pour recevoir le salut. La repentance, on est pleinement engagé. Je ne peux pas me dire, bon, ben voilà, je prie, puis je dis, Seigneur, ben, occupe-toi de la repentance. Ben non, il n'y a rien qui s'est passé là. Je ne me suis pas repenti. La repentance, je suis pleinement engagé. Seigneur, je te demande pardon. Je cherche à changer ma manière de vivre. Je demande la force à Dieu. Tu es pleinement responsable de te repentir de ton péché. N'hésite pas à le faire. Et reconnais la bonté de Dieu qui te donne la grâce de le vivre. Bien sûr qu'on reconnaîtra ensuite, mais Seigneur, tu m'as donné cette grâce de le vivre. Ça ne vient même pas de moi, je n'aurais même pas ça au fond de moi. C'est toi qui me l'as donné. Mais au moment où on est face à la question, on n'est pas en train de se dire est-ce que Dieu me le donne, est-ce que Dieu ne me le donne pas. Repends-toi. Et qu'est-ce qui résulte de la repentance qui s'ouvre et qui est toujours... Donc la repentance qui est accompagnée de la foi, eh bien c'est la rédemption. C'est notre prochaine étape du cycle, la rédemption. Le verset 16 nous indique que l'Éternel suscite des juges pour sauver son peuple de la ruine. Or le terme juge apparaît ici au verset 16 du deuxième chapitre pour la première fois. Et c'est en fait c'est ce mot qui a donné le nom au livre. Pour ça qu'on l'appelle le livre des juges. Or, ce terme juge est un peu étonnant, parce que nous, le juge, on ne le voit que dans un tribunal, actuellement. Là, ce terme, en fait, est un peu plus large dans sa compréhension. Donc, on pourrait le traduire par chef, dirigeant, gouverneur. Hein, celui qui est à la tête, qui dirige, qui conduit, qui exerce la justice, qui gouverne. L'Éternel délivre son peuple de la main de ses ennemis par le juge qu'il met en place. Hein, ce n'est pas un juge qui dit « Ah !» Je vais être juge. Non, c'est Dieu qui le mettra en place. C'est en quelque sorte le sauveur du peuple qui agit avec courage et confiance en Dieu. Et il engage le peuple au combat et l'amène à la victoire. Le lien avec l'évangile est éclatant ici. Jésus est notre sauveur, notre juge, si vous voulez. Il a acquis la victoire à la croix et il a vaincu la mort à la résurrection. Donc le lien avec l'évangile, avec ce cycle, la rédemption, hein, cette phase, il est éclatant. Jésus est notre sauveur, notre juge, si vous voulez. Il a acquis la victoire à la croix et vaincu la mort à la résurrection. C'est lui qui délivre son peuple et nous engage et nous amène à la victoire. Et la délivrance des juges amenait un temps de paix. C'est la phase suivante de la spirale. C'est le cas cinquième. Donc on a dit rébellion, ruine, repentance... Rédemption, puis là on arrive au repos. L'ennemi est vaincu, c'est la délivrance. Plus besoin de cacher les récoltes, plus besoin de payer des taxes exorbitantes, plus besoin d'avoir peur des pillages, c'est la paix. Et combien de temps durait cette délivrance? Combien de temps? C'est écrit au verset 18. Pendant tout le temps du juge, c'est-à-dire pendant tout le temps de la vie du juge, dès que le juge mourait, le peuple passait à la phase suivante de la spirale, la rébellion. Comme lorsqu'un prof quitte la classe, hein, le chaos n'est pas loin. Il faudrait donc que le juge ne meure pas pour que la délivrance ne s'arrête pas. D'accord, puisqu'en fait, la délivrance durait le temps que le juge vivait. Il faudrait donc que le juge ne meure pas pour que la délivrance ne s'arrête pas. Il faudrait une délivrance de l'âme, pas seulement du corps. Il faudrait une délivrance du péché. Il faudrait, parce que là, on voyait les délivrances physiques quelque part, du corps, mais il faudrait une délivrance de l'âme, pas seulement du corps, il faut une délivrance du péché. Et c'est justement l'excellente, la merveilleuse, la sublime nouvelle de l'Évangile. Le Sauveur qui est Jésus-Christ est vivant pour combien de temps ? Pour toujours ! Il est vivant pour toujours. Il sauve les âmes de ses ennemis. Et l'ange avait annoncé à Joseph, avant sa naissance, « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ce qu'aucun juge n'avait pu faire. L'Éternel délivre son peuple de ses ennemis durant tout le temps du juge. En Jésus-Christ, cela veut dire éternellement. Comment ça saisir ce livre des juges ? Il est quand même sympa, hein ? Comment ça saisir là que ces éléments qui nous sont donnés nous pointent vers celui qui nous donnerait un salut réel et éternel ? Jésus est le seul qui peut nous sortir de cette spirale infernale, car il est le seul qui ne meurt pas. Parce que si c'était le cas, nous retomberions dans la rébellion. Mais ce n'est pas le cas. Relisez 1 Corinthiens 15 sur la résurrection de Jésus-Christ. S'il n'était pas ressuscité, nous serions les plus tristes, les plus malheureux de tous les hommes. Jésus est le seul à pouvoir délivrer notre âme, pas seulement notre corps. Le seul qui peut délivrer du péché, qui me permet d'être arraché de cette spirale. Et tant que Jésus est vivant, nous pourrons vivre dans la délivrance. J'espère que vous commencez à saisir cette nouvelle extraordinaire que le livre des juges a préparée. Et la spirale descendait tellement bas, qu'en fait elle amenait à la mort. Et quand on lit le livre des juges, vous avez déjà lu tout le livre des juges ? Vous arrivez à la fin de ce livre. Ben vous voyez que la spirale était extrêmement basse et que la seule chose que vous avez envie de dire, Seigneur, délivre ton peuple une fois pour toutes. Ben c'est juste terrible ce qui se passe dans le livre des juges. Mais c'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. C'est une délivrance une fois pour toutes. Tant que Jésus n'était pas venu, le peuple s'enfonçait dans une spirale infernale. Est-ce que vous avez déjà vu un tourbillon d'eau ? Bon, moi, je voulais savoir si ce que j'allais dire était vrai. Donc, j'ai un petit peu allé chercher ce genre de choses. Et j'ai vu des vidéos de tourbillons d'eau. C'est juste impressionnant. Ça engloutit, en fait, les choses. Et ben, ce n'est pas possible de s'en sortir. Hein. Il y a plusieurs personnes qui sont décédées dans des rivières, d'ailleurs aussi, où il y a des tourbillons. D'avoir des tourbillons. Donc, c'est comme un aspirateur. Tout descend vers le bas et meurt. Eh bien, le péché est réellement un tourbillon. Parce qu'un péché en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre. Nous sommes aspirés vers le bas et le péché mène finalement à la mort. Et pour sortir du tourbillon du péché, il faut un changement d'âme, un changement de cœur, une libération de ce péché. Pour sortir de ce tourbillon du péché, repentons-nous et croyons que Jésus a payé notre dette et nous serons délivrés de la puissance du péché. Le peuple qui est entré dans le pays de Canaan n'a malheureusement pas accompli le jugement purificateur en appliquant la peine de mort à tous les idolâtres. On a vu la dernière fois, vous vous souvenez ? Ils auraient dû, en fait, tuer toutes ces personnes. Ce n'est pas facile pour nous de comprendre ça, hein, mais je l'ai expliqué la dernière fois. Le peuple, malheureusement, n'a pas appliqué le jugement de Dieu. Il s'est mis à adorer les idoles et ils ont pratiqué ce qui était la cause du jugement. Donc, que s'est-il passé ? Ben, le peuple n'a plus été l'instrument de jugement dans les mains de Dieu. Il s'est placé sous le jugement de Dieu. Et Dieu a décidé de différer le jugement de ces nations cananéennes restantes et a utilisé ces nations pour mettre son peuple à l'épreuve. C'est la dernière partie de notre introduction de ce texte-là de Juge 3, 2 et 3. Donc à partir du verset 22 jusqu'à 3, 6. À cause de l'infidélité du peuple, la terre promise se transforme en désert où les nations idolâtres remplacent les chardons pour aiguillonner le peuple, pourrait-on dire. Vous savez, l'infidélité avant d'entrer dans le pays, qu'est-ce qu'elle a eu pour conséquence ? et eut pour conséquence de retarder la jouissance dans le pays promis. Rappelez des 40 ans dans le désert. Eh bien, l'infidélité, en étant entrée dans le pays, a de nouveau la conséquence d'avoir un délai pour jouir, pour avoir la pleine jouissance du pays. Et Dieu mettra son peuple, et il en donne deux raisons. Au verset 22, 3, 4, et au verset 2 du chapitre 3. La première, vous regardez avec moi au verset 22. Pour savoir si oui ou non, ils s'appliqueront à suivre la voie de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu a laissé ses peuples. Ou bien dit autrement au chapitre 3, verset 4, si ils obéiraient au commandement de l'Éternel. Voilà pourquoi, en fait, ces peuples sont restés. Ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison, verset 2 du chapitre 3, c'est pour que les générations des Israélites qui ne connaissaient pas apprennent la guerre. Bon, on va un tout petit peu donner une explication, assez courtement, on est dans nos derniers points. Mais j'aimerais juste déjà poser la chose en disant que la présence des ennemis va pousser les Israélites à devoir prendre position. Il va pousser les Israélites à devoir prendre position. Est-ce qu'ils vont se positionner pour Dieu ou est-ce qu'ils vont se positionner pour les dieux ou les faux dieux de ces peuples condamnés par le juste juge? Ils seront dans la situation, ils doivent choisir. Dieu les met devant cette situation. Et vous savez, prendre position va nous aider à savoir ce que nous voulons vivre et chercher à mettre en place des stratégies bibliques pour y arriver. Si vous ne prenez jamais position, si vous ne savez pas ce que vous voulez vivre, comment est-ce que vous pourrez prendre des décisions dans vos vies qui vont dans une bonne direction? Prendre position est important. Et Dieu permet que ces peuples restent là dans le pays de Canaan pour que Israël doive prendre position. Dieu sait que c'est en voyant d'autres qui ne servent pas à Dieu que nous pouvons mesurer notre obéissance au commandement. Le contraste sera un outil pour nous aiguillonner, en fait. Si vous vous rendez compte que vous ne vivez pas différemment de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, vous devrez quand même vous poser des questions. Et quelque part, ceux qui ne vivent pas pour Dieu autour de vous sont un aiguillon pour vous dire « Attends, est-ce que je vis vraiment selon Dieu ? Ou est-ce que cette personne a été transformée par Dieu ?» Bon, ben, gloire à Dieu, alors. Mais c'est qu'elle sert Dieu. Donc là, c'est la première raison. Et la deuxième raison, apprendre la guerre. C'est un peu bizarre. Hein? Dieu, il veut que son peuple apprenne la guerre. Hein? Alors, apprendre la guerre, il faut bien comprendre ceci, c'est apprendre à être totalement dépendant de Dieu. En fait, dans toute la conquête de Canaan, les Israélites, non, Dieu ne leur a jamais fait un camp d'entraînement militaire. Regardez, jamais. Il leur a fait un camp d'entraînement à la dépendance de Dieu. Pendant 40 ans. Donc apprendre la guerre, selon Dieu, c'est apprendre à être totalement dépendant de Dieu. Et nous avons clairement vu la dernière fois que nous ne sommes pas dans une guerre physique actuellement, mais une guerre spirituelle. La présence des ennemis aidait le peuple à se rendre compte qu'ils n'étaient pas dans la paix et qu'ils avaient un constant besoin de la dépendance de Dieu, de se confier en Dieu. Il ne faut pas vivre dans une fausse paix. Tu vois, mais il n'y a pas de guerre. Ben tant mieux s'il n'y a pas de guerre physique, on ne la souhaite pas, évidemment. Mais la guerre spirituelle, elle est bien présente. Elle est bien présente. Ne cherchons donc pas à être simplement dans une fausse paix. Cherchons à être dépendants de Dieu. C'est ça la vraie paix. La guerre, on ne peut pas l'éviter, elle est là. Par contre, on peut trouver refuge en notre Dieu et on peut trouver la force en notre Dieu. Parce que la tactique de tout prédateur, c'est de se faire oublier. Pour mieux sauter sur sa proie lorsque elle a l'impression qu'il n'y a plus de danger. Notre défi aujourd'hui est donc de reconnaître que nous sommes étrangers dans ce monde, de nous abstenir des désirs charnels et glorifier Dieu par une bonne conduite, comme cela est dit dans 1 Pierre 2, 11 et 12 qu'on a lu tout à l'heure. Mais je vous invite à reprendre vos Bibles dans 1 Pierre 2, 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Le peuple d'Israël a-t-il réussi son épreuve ? Ah, le verset 6 du chapitre 3 de Juges est catégorique. C'est non. Ils ont donné leur fille au peuple idolâtre Et ils ont pris des filles idolâtres pour leurs fils. Le chrétien peut-il réussir à vivre en étant dépendant de Dieu? Ben, j'aimerais vous donner un exemple dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, et je lis les premiers versets, qui nous montreront si oui ou non c'est possible. Voici ce que l'apôtre Paul dit à leur égard. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu, notre Père, de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec une puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations et avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. Est-ce possible? Oui! C'est un exemple très clair. Oui, par la grâce de Dieu. Et en conclusion, j'aimerais simplement dire que notre juge, notre sauveur Seigneur Jésus-Christ, nous délivre de la puissance du péché. Il nous sort de la spirale infernale du péché qui nous tire vers le bas. Oui, par sa force et sa grâce, nous pouvons vivre 1 Pierre 2, 11 et 12. Et les Thessaloniciens en sont une preuve. Oui, nous pouvons stimuler et encourager les générations suivantes à vivre pour Dieu, en ne les considérant pas comme chrétiens avant qu'ils le soient vraiment, mais en nous réjouissant lorsqu'ils prennent le relais dans la transmission de la foi. Oui, nous pouvons arriver à une autre conclusion que Juge 3, verset 6, et ne pas entrer en alliance avec l'idolâtrie lorsque nous cherchons notre force auprès de Christ. Vous savez, Dieu est riche en bonté. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Et si tu vois que tu as fait un compromis, n'hésite pas. Reviens à Christ. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Il dira pas, « Oh, mais tu t'es éloigné, je ne veux plus te voir. » Pas du tout. Il va te dire, « Tu as commis l'idolâtrie. C'est un péché. Mais je suis mort pour ce péché. Tu es purifié. » Waouh! Ça, c'est un message. Ça, c'est l'évangile. Et ce qu'il promet, il le tient. Il n'est pas un faux Dieu. Il est capable de grâce et de pardon, car il a tout accompli pour pardonner et pour faire grâce. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous avons des pensées contrastées en lisant ces textes de Juges. Contrastées parce que, en lisant les textes, il y a bien du pessimisme. Nous voyons, Père, ces générations qui s'éloignent de toi, qui adorent des idoles, qui font des alliances avec l'idolâtrie, qui vivent ce que tu appelles la prostitution spirituelle. Et Seigneur, quand on regarde à nos vies, on ne peut pas dire qu'on est meilleur qu'eux. Et si nous n'avions que le livre des juges, nous serions les plus malheureux des hommes. Mais Seigneur, ce livre des juges préparait la venue du juge suprême, celui qui vient délivrer réellement, celui qui reste vivant ensuite pour garder ceux qu'il a délivrés. Merci pour le don de Jésus-Christ, qui était déjà prévu à ce moment-là. Et donc, qui dans toutes ces pages de l'histoire qui ne sont pas faciles, sont déjà là en filigrane, nous font aspirer à lui et nous réjouissent maintenant que nous avons la clé, que nous puissions, Seigneur, nous réjouir de son œuvre de libération. Oh Seigneur, merci parce que tu nous sors de la spirale du péché. C'est vrai que nous péchons encore, mais tu es ce Dieu de compassion et tu es mort pour ces péchés. Nous pouvons venir vers toi, te prier de nous pardonner et tu nous purifies. Merci Père. Merci parce que le péché n'a plus ce pouvoir sur nous, ce pouvoir de mort, parce que tu l'as vaincu. à la croix et lors de la résurrection. Eh bien, sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.